podcast.com. Essaye ça.
Le mouchoir express. Pourquoi le mouchoir? Ben, regardez-moi à face. J'ai passé la nuit à me servir de mouchoir et pas pour le plaisir, on va dire comme ça. Oh. Ah oui, j'ai été infecté par un enfant qui fréquente une école et tout le monde sait que les écoles sont des nids à maladie. C'est ça. J'ai passé la nuit aux prises avec un rhume. Qui n'est pas la COVID. On avait des tests à la maison, puis au moins c'est pas la COVID. Mais c'est ça. J'ai un gros rub-dub. Mais je devrais être capable de passer au travers du show. Martin va m'aider. Hein? Il va venir me moucher mon petit nez à milieu de l'émission pendant la pause, pendant que vous regardez pas. Non? OK. Bon, je vais m'organiser tout seul avec la petite poire là-bas, la petite paille.
Vous voulez être malade, arrange-toi.
Ah, c'est... Je dis la petite paille parce que j'ai eu en tête l'image des mères qui... puis là, je ris pas d'elles. Je salue leur courage. Les mères qui utilisent le petit appareil pour aspirer dans le nez de leur bébé malade. Évidemment, ils aspirent pas. Il y a un filtre.
Ça te prendrait du ça?
Mais non. Mais c'est juste pas beau à voir. Mais oui, ouais, vous savez sûrement de quoi je parle. Une espèce de patente avec un filtre. Puis on mouche l'enfant comme ça. C'est pas beau à voir. Fait que, c'est ça. Je vais continuer à mériter.
Tu sais comment partir ça, un show sur l'heure du dîner.
Certainement.
Bon appétit, tout le monde.
Mais bon, je vais m'organiser à l'ancienne en irritant mon nez jusqu'à ce qu'il soit rouge à force de me moucher. Mais bon, assez parlé de ça. Je vais juste faire une niaiserie en partant.
On va parler d'une autre maladie, Frank, en fait, en ouverture, parce que, tu sais, le mouvement, je vais adresser un point aussi. Tu sais, il y a des gens qui communiquaient avec nous autres pour dire « Hey, c'était pas ce point. » Non, quand il y a de la conspiration dans l'actualité, on en parle, c'est le cas aujourd'hui, parce que on assiste un peu à un aspect, tu sais, on a appelé il y a un crachoir dominical qu'on a appelé retour à la case départ. Ben, tu sais, c'est un peu ça qu'on va vivre. En fait, c'est peut-être pas un retour à la case départ, mais le retour du balancier. Parce que là, il y a des affaires que les gens avancent lorsque ces choses-là se produisent. Et là, il y a des réponses, on obtient des réponses. Et là, on peut leur faire ce qu'on appelle le proverbial. Comme d'autres ta gueule.
Ouais, on peut mettre leur nez dans leur caca.
Et je m'explique. Le 7 septembre 2021 est décédée malheureusement une jeune étudiante à l'école secondaire Louis Riel. Il y avait eu des allégations de plusieurs complotistes à l'effet que ça avait été causé par, évidemment, le vaccin. C'était pas compliqué de confirmer que c'était faux, que c'était à cause du vaccin, parce que les dates ne concordaient pas. La petite fille s'appelait Malaka Kamal Rizkala. Et c'est un cas de mort soudaine, en fait. Là, tu sais, elle s'est effondrée en classe. Et ce qui est arrivé, c'est que ça a parti en peur. Ça a parti en peur sur les médias sociaux, mais particulièrement par une personne qui ça avait fait, en fait, même la manchette, en tout cas, dans une certaine mesure, qui est le très sympathique et sémillant, n'est-ce pas, Claude Gélina, que nous avions appelé affectueusement, pas pantoute, Claude Gélinotte. Et que c'est un blogueur, c'est un gars qui œuvre dans différentes affaires. Un anti-masque qui vendait des masques écrits dessus « J'aime mon oxygène ».
Avec son cerveau de gélinotte. Là. Une gélinotte, c'est une perdrix, là, pour ceux qui l'ignorent. Oui, là, c'est pas mal ça qui habite son encéphale. Une petite cervelle d'oiseau. Je pense,
de toute façon, on va en faire une très belle démonstration.
Dans les commentaires, Martin, dans les commentaires, les gens s'en souviennent. Capitaine Bobette de Lévis, King Bobette.
Ah oui! Bon, fait que là, racontons un peu les faits. C'est que sur un blog qui lui appartient, Il avait fait mention, il avait utilisé des terminologies absolument débiles. Écoute, là, il y avait c'était titré genre t'as peu, je vais te le dire très exactement. Il y a tellement de stock là-dessus. En tout cas, en gros, c'était titré que s'il y avait des allégations très claires que c'était à cause de la vaccination. Parallèlement à ça, ce qui est arrivé. Oui.
Ah, j'ai juste confirmé que oui, c'était drette ça, ses propos. C'était, il n'y avait même pas de nuances, de doutes, de conditionnels. C'était affirmatif, c'est les vaccins.
Oui, non, c'est ça. Et il y avait, dans un premier temps, il avait retiré sa publication. Après ça, il l'avait remise. Écoute, ce qui est arrivé aussi par la suite, c'est que l'équipe de JE s'était rendue chez lui pour lui poser des questions puis savoir qu'est-ce qui en était retourné. Et ça avait donné lieu à ce que nous avions appelé à l'époque le Bobette Gate. Selon Gélina, ça je rapporte un article de l'époque, selon Gélina, il a remis le texte sur son blog après diffusion de son histoire dans le journal à l'émission GIA dans une vidéo YouTube de 54 minutes. Il tente de se justifier. Selon Gélina, il n'y a pas de théorie du complot sur le fait que le vaccin est mauvais pour les jeunes. Ce n'est pas vraiment un complot. Il y a eu des dizaines de milliers de morts rapportées. Dizaines de milliers. Soutient-il, sans préciser d'où vient cette information, l'homme se plaint également d'avoir été censuré sur Facebook pour Tipit, qui l'empêcherait de faire des vidéos en direct. Il est aussi revenu sur les bobettes 10 ans plus tôt que c'était des boxeurs.
Ben oui, lui, il répond à la porte aux journalistes avec une caméra sur l'épaule en bobette, en caleçon.
En stépine.
Puis finalement, sa source pour les dizaines de milliers de morts du vaccin a été confirmée. Là. Ça viendrait de son cul.
Ben ouais,
ça vient de ses bobettes.
Là, il y a eu un rapport du coroner qui est sorti et, en fait, Malacca est décédé des suites de troubles du rythme cardiaque connus sous le nom de, et là, je me calme, je vais essayer de le dire comme il faut, de tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique.
Ça sonne rare.
Donc, c'est indiqué dans le rapport du docteur Jean Brochu. Son décès n'est donc pas lié au vaccin contre la COVID-19. Parallèlement à ça, Frank, ce qui s'était passé à cette époque-là, c'est qu'il y avait eu évidemment une manifestation, n'est-ce pas, à l'école Louis Riel, dans laquelle on retrouvait les conspirationnistes notoires de l'époque. Et au sujet duquel, écoute, même le ministre de l'Éducation de l'époque, dont on a parlé cette semaine, M. Robert, je suis scandalisé par ces manifestants qui ont instrumentalisé le décès tragique d'une jeune fille pour alimenter la désinformation. C'est un geste irresponsable et j'offre toutes mes condoléances aux proches de la victime et au personnel scolaire. Ce qui avait mené aussi à différents débats sur est-ce que le droit fondamental de manifester confère également le droit d'aller manifester où on veut, c'est-à-dire sur les prémices ou sur les installations ou sur à proximité d'enfants ou d'instituts d'enseignement ou tu sais de cours d'école, tu sais, puis ainsi de suite. Fait que le titre du texte de Claude Gélinotte était « La mort post-vaccinale par crise cardiaque de Malacca Riscala, 15 ans à Montréal ». Et ça, ben, tu te doutes bien que ça avait circulé pas à peu près.
Ben oui, ça a pogné au bout. Mais aussi, tu sais, dans l'article où on rectifie les faits, la mère spécifie que c'était déjà arrivé. Elle avait déjà eu d'autres épisodes de cette maladie-là. Je pense que c'était en 2017. Elle avait dû être réanimée. Puis là, cette fois-ci, il n'avait pas réussi à la réanimer. Fait que tu sais, sa condition était connue, puis ça lui était déjà arrivé de s'effondrer, puis d'avoir un malaise cardiaque avant la pandémie, je pense, en 2017, si je me trompe pas. Fait que lui, pas vérifier ça, tu tiens compte de rien. Lui, il a décidé que c'était la vaccination parce que ça fit avec le narratif conspirationniste qui permet à ces gens-là de s'enrichir ou de gagner en popularité.
Il y a encore plus épais que ça dans l'histoire parce que...
Oui, iMaster, c'est bien ça.
Le 9 septembre, il y avait la commission scolaire et le centre, pas la commission scolaire, mais le CIU3S de l'Est de l'île de Montréal avait sorti un communiqué le 9, donc 2 jours plus tard, concernant les rumeurs qui circulent en lien avec le décès d'une jeune femme à l'école Louis Riel le 7 septembre dernier. Nous tenons à préciser que notre équipe de vaccination COVID-19 était présente à cette école mercredi le 8, soit le lendemain du décès de la jeune femme.
Dégueulasse. Alors qu'on ne savait presque rien.
Ouais, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait que notre bon Claude Gélinotte Écoute, a crié bien sûr à l'injustice parce que un peu comme je le lisais tantôt. Et là, écoute, il y a eu un paquet de ça a monté aux barricades. Hein, le mouvement conspi est venu à la défense de Claude Gélinotte. Et au cours de la manifestation, parce que là, ce qui est arrivé, c'est que il y a des gens qui se sont rendus, évidemment, des militants anti-vaccins qui se sont rendus à l'école. Ils soutenaient que la mort de l'élève est survenue après l'inoculation du vaccin contre la COVID et que l'école cachait la vérité. Préparez-vous là, parce que j'ai envie de relater un autre dossier similaire. C'est les résultats les résultats du bureau du coroner quant au dossier qui concernait M. Étienne Desrochers-Jean, qui était un client du Mega Fitness Gym. Donc, dans son rapport, le coroner établissait très clairement, c'est dans un article qui est apparu le 9 juin 2022, que c'est bel et bien de la COVID qu'Étienne Desrochers-Jean. Fait que là, quand quelqu'un décède quelque part, que le monde sont réputés pour ne pas être vaccinés, c'est pas de ça. Puis quand quelqu'un décède alors qu'il pense qu'il a été vacciné et que c'est faux parce qu'ils se sont présentés le lendemain du décès de la petite fille, ben là, c'est le vaccin.
Non, c'est ça, on choisit la cause selon notre orientation idéologique. Là, les personnes meurent de la COVID, puis surtout pas des antivax qui fréquentaient un gymnase où le propriétaire était antivax et il laissait les gens rentrer pendant la pandémie, pendant le confinement, ne lavait pas les machines. Mais non, ça se peut pas que la COVID ait tué ces gens-là. Mais dès que quelqu'un tousse, c'est à cause du vaccin. T'sais.
Ben non, c'est ça. Puis ça, ce que je prévois, tu sais... On le fera pas, là, évidemment, on partira pas en peur. Là. Je pense que la démonstration est pas mal faite, mais tu sais, ce qui va arriver, c'est qu'il va y en avoir d'autres. Parce que en ce moment, n'importe qui décède et du contenu pour les conspis, parce qu'il n'existe plus. Il n'existe plus de cause de décès sur la Terre que le vaccin.
C'est la seule chose.
Et là, ce qui va arriver. C'est qu'il va y avoir des investigations, il va y avoir des rapports de coroner, il va y avoir des autopsies, il va y avoir des... Tu sais, peu importe. C'est une autre affaire dont on a parlé aussi à l'époque, là, tu sais, quand Sornet Strudel pétait un couvert de valve, là, fraude statistique, tout le kit.
Martin?
Une autopsie, oui.
Breaking news? Et puis, aussi, on nous dit que la manif n'était pas à Louis Riel comme tel, c'était à Henri Bourassa, mais c'était en lien avec ce qui est arrivé à Louis Riel.
Ouais, je présume que ça devait être pas loin des bureaux administratifs de la commission scolaire, ou en tout cas, peu importe que ça ait été à Louis. Mais ça, je suis pas certain de ça. Là. Je veux juste faire sûr que j'ai la bonne information parce que je déteste faire ça. L'affrontement verbal est survenu aux abords de l'établissement scolaire de l'Est de Montréal à l'heure du repos. Là. Fait que je pense que la personne a confond avec une autre manifestation qui avait eu lieu à laquelle Tommy était allé puis qu'il y avait eu un affrontement verbal.
Fait que c'est
bel et bien à Louis Riel qui se sont rendus. On va assister à un paquet de rapports d'autopsie puis de choses comme ça qui vont faire la démonstration que de toute façon les gens étaient dans le champ au départ. Est-ce à dire qu'il ne décédera personne de vaccination? Non, c'est pas ça que je dis là. Je dis pas ça. Sauf que je dis que c'est les probabilités que ça se produise sont infiniment minces par rapport à ce qu'on va probablement découvrir dans la majorité des cas de mort subite, parce que on l'a déjà dit, la mort subite, ça existait avant la pandémie. Là.
Puis l'important aussi, c'est que si la mort est causée par le vaccin, ça va être déterminé par des professionnels de la santé, pas par du monde qui milite pour ou contre le vaccin. C'est pas nous autres qui décident ça, sauf que les conspires, eux autres, décident de la cause parce que ils s'en servent pour faire du clickbait, pour que les gens viennent les écouter, pour aussi mobiliser les gens contre, que c'est tellement plus facile, comme tu l'as expliqué souvent. Et puis, c'est parce que ça sert leur narratif de conspiration. Voilà. Ça vient comme corroborer leur théorie de complot. Mais c'est ça. C'est, c'est pas nous autres qui décident. C'est pas nous autres qui déterminent la cause de la mort. C'est pas. Mais ben, essaie d'expliquer ça à un conspi, lui, je veux dire.
Hey, c'est ça, c'est là que je m'en allais.
Il raisonne pas, lui, il croit.
Une autopsie, là, c'est pas comme te faire faire un bord de pantalon, là. Tu sais, c'est pas automatique, mais tu fais. Tu sais, il y a une question de. Il y a une question de respect de la dépouille, là. Tu sais, il faut qu'il y ait des raisons de croire qu'il y a quelque chose qui s'est passé de pas conforme ou de pas normal dans le décès de quelqu'un pour qu'on décide de faire une autopsie, là. OK? C'est pas automatique, là. Tu sais, parce que eux autres, ça, c'était un autre des grands argumentaires de Cossette Trudel, c'était de dire, ben oui, mais faites des autopsies, vous faites pas d'autopsie, la vraie cause, on la connaît pas. Bon, regarde. OK, là? C'est une autopsie. Ou le fait d'ouvrir la dépouille ou le corps de quelqu'un, c'est pas quelque chose. Tu sais, ça a des conséquences. Ça fait en sorte que les obsèques peuvent être retardées. Il y a des gens qui peuvent préférer que le cadavre ne soit pas comment dire là.
Ça vaut pas la peine de faire ça juste pour fermer la gueule d'un conspi comme Alexis Cossette-Trudel. Tu sais, il y a des bonnes raisons de faire des autopsies, puis juste fermer la gueule d'un coucou qui chiale de se passer. Puis aussi, il y a le fameux principe « correlation is not causation ». Je sais pas c'est quoi en français, mais c'est pas parce que quelque chose...
La corrélation, c'est pas une cause.
Ouais, c'est ça.
C'est pas une cause réelle.
C'est ça. Par exemple, comme hier, j'ai mangé du tartare de bœuf. Aujourd'hui, j'ai le rhume. Ah, est-ce que si je réfléchissais comme un conspi et que je m'attardais juste à la corrélation, je pourrais dire le tartare de bœuf m'a donné le rhume. Mais c'est pas parce que ça donne.
A mis ses doigts dedans.
Mais problème, je dois l'avoir contracté il y a quelques jours avant. Mais le temps que ça couve, comme on dit. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas parce qu'il y a une corrélation dans le temps, parce que ça adonne dans le temps, que c'est nécessairement une cause. Mais encore là, essayer d'expliquer ça à un conspi qui croit au lieu de raisonner et qui est dans l'émotion plutôt que dans la réflexion, il peut pas comprendre ce principe-là parce que
ces affirmations-là de Claude Gélinotte, là, qui est pas habilité du tout à présumer de quoi que ce soit de nature médicale, c'est resté là longtemps, là. C'est resté là, tu sais, ça a pas été là, là genre, tu sais, 3-4 heures, puis là, un moment donné, Facebook là, ben, l'a censuré ou a dit que c'était de la fausse information ou peu importe. Non, c'est resté là des semaines, là, tu sais, dans des dizaines de jours, je me souviens pas exactement, il me semble que c'était 17. Fait que...
Non, c'est ça, c'est sûr que... T'es pas qualifié, t'es pas habilité à faire ça, puis dans le cas de Gélinotte, il est même pas habilité. Je laisserais pas faire la météo à une radio communautaire.
Là, on va aller... On va avancer dans le temps, puis là, ben des situations comme ça, ce qui va arriver, là, c'est que si on n'en fait pas des debunks de même de temps en temps, là, ben tu sais, c'est que la désinformation, à mon humble avis, va perdurer. Tu sais, si ça arrive jamais qu'on dise que le gars d'ESPN, il avait une condition médicale préalablement. Malaka, c'était la même chose, elle avait une condition médicale. Si on le fait pas de temps en temps, ben l'absence d'information pour un conspi, c'est une confirmation de quelque chose. Ah, tu vois, ils en parlent plus, ils veulent pas en parler.
Ils cachent les.
C'est sûr. Fait que c'est sûr, c'était le vaccin, puis là ils cachent ça. Tu sais, tout le kit. Fait que moi, je considère que c'est important qu'on fasse des petits throwbacks comme ça, comme on fait aujourd'hui. Puis, écoute, on n'est pas les seuls parce que il y en est question aussi dans les médias parce que je dirais que de mémoire, c'est un des premiers cas majeurs d'instrumentalisation dans le contexte de la COVID. Il y en a eu d'autres avant, mais tu sais, celui-là particulièrement...
Le décès d'enfant, c'est encore plus
troublant. Les médias étaient allés dessus, c'est ça, les médias avaient creusé et tout ça. On va commencer, Frank, on va se rappeler un petit peu des souvenirs parce que je vais te faire jouer la promo qu'on avait faite de ça parce qu'on en avait parlé dans le crachoir à l'époque.
Tant que lui ne se récuse pas, tant que lui ne détruit pas son image de messie, ben les gens vont continuer à garder leur foi en lui. Fait que c'était très habile de sa part. Puis pour les bobettes, moi je trouve ça drôle parce qu'il revient là-dessus.
Ben ouais,
pour la petite histoire, j'en ai pas de bobettes puis je me rappelle pas en avoir porté depuis des décennies. Ce qui l'énerve, c'est que c'est le mot bobette. Parce qu'il était en sous-vêtement, mais il dit « T'as peu, là, je suis pas un cave qui répond à porte en bobette. » J'étais en boxeur, là. Ta gueule! Il y a un gars qui a une caméra et puis un micro, tout ouvre la porte à moitié à poil. On s'en fout-tu que ce soit des canons, des bobettes ou des boxeurs. Va t'habiller, c'est tout nu. C'est juste ça que j'ai à dire.
J'ai des sous-vêtements à mi-cuisse. Rigueur, collier.
Fait que là, il dit, ah, ouais, c'est ça. Fait que là, il dit, alors pour les bobettes, sans surprise, c'est faux. Selon la technique du celui qui dit, celui qui l'est, puis du why met way, ben lui, quand TVA relève sa désinformation, ben vous autres aussi, vous en faites de la désinformation, vous avez dit bobettes, puis c'est des boxeurs.
Vous apportez votre attention ces petits pois au lieu du steak, comme ça, ben ça va calmer les ardeurs de mes fans, mes feux fans, puis les autres, de toute façon, vous le saviez déjà, je suis un maillet avant, fait que ça changera rien.
Il est en caleçon.
Ben ouais, c'est ça, mais encore une fois, tu sais, c'est. Puis ça, là, j'espère que quand les médias auront été impliqués dans des situations, quand. OK, regarde bien. Ce qui serait équitable, OK? On le sait tous, tu l'as dit souvent toi-même. Sexe, drogue, scandale, là. Bon.
Sexe, scandale.
Quand les médias font leur chou gras de nouvelles tristes comme le décès d'un enfant. Tu sais, là, puis écoute, je comprends qu'ils en parlent, OK? Je dis pas qu'ils font du spectaculaire nécessairement avec ça. Je comprends qu'ils en parlent. Sauf que s'il y a des quelconques prétentions à l'effet que c'est causé par le vaccin, ben tu sais, s'il y a des... Lorsqu'il y aura des vérifications qui seront faites, j'espère que c'est des informations qui vont être rendues disponibles, parce que il y a personne qui écoute plus TVA que les conspis. Ce sont tous... des spécialistes en contenu de TVA et de Québécois. Ils connaissent le contenu par cœur. Ce sont eux qui partagent le plus d'informations émanant de TVA sans contredit, quel qu'il soit.
Fait que, un journaliste, là, bon, c'est sûr qu'eux autres, ils pensent que le but du journaliste, c'est de plaire au gouvernement parce qu'il est sous la botte du gouvernement, mais dans la vraie vie, dans la réalité, là, le journaliste cherche une nouvelle pertinente qui est d'intérêt public et il veut être le premier à la sortir pour avoir le scoop. Si jamais il y avait plusieurs morts qui étaient reliées au vaccin puis que il y avait un lien, tu sais, patent à faire, mais ils seraient les premiers à vouloir le sortir le plus vite possible, puis tu sais, ce qui serait bon pour le journaliste, ça serait le premier qui ferait la démonstration que les vaccins sont dangereux. Si les vaccins étaient dangereux puis que c'était, on pouvait en faire la démonstration, les journalistes se battraient pour la faire, cette démonstration là et être les premiers à la dévoiler. On n'aurait pas besoin des conspis, là, tu sais, mais c'est sûr que si on se met dans la tête d'un conspi, ben les journalistes font vœu de loyauté à Satan et à Trudeau et à Legault, puis servent une cause machiavélique dans un univers parallèle où ils sont des agents du mal, là. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, s'il y avait un lien causal à faire entre les vaccins et les mortalités, les journalistes seraient les premiers à dire, puis comme je le disais, ils se battraient pour être le premier à faire la démonstration, parce que c'est ça qui est bon pour un journaliste. Être le premier à dévoiler quelque chose, à annoncer quelque chose au grand public. Ils n'ont pas d'agenda du gouvernement à respecter. Ça, c'est de la folie, c'est du délire paranoïaque de gens qui veulent faire peur au monde et qui veulent stimuler les sentiments de peur et d'indignation pour recevoir des dons.
La bonne nouvelle aussi, parce que c'est ça ma bonne nouvelle cette semaine. Je viens de décider ça. Okay. La réelle bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, en autant que je sois concerné, Claude Gélinotte ne sévit à peu près plus, là. Tu sais, j'ai bien du monde qui me rapporte des affaires qu'ils voient puis qu'ils trouvent puis tout ça. Pis ça fait très longtemps que on n'a pas eu Claude Gélinotte sur le radar. Mmh. Et moi, ce qui me faisait capoter de ce gars-là, c'est que, tu sais, fut un temps, le Frank, où est-ce que, tu sais, quelqu'un voulait crédibiliser son life, là. Il invitait ce gars-là, là.
Oui. Il a été le Samuel Grenier d'une époque.
pas à ce point-là, parce qu'il avait pas... Tu sais, il faisait des lives, là, puis tout. Pis
il n'y a pas de même following. Ouais.
Non. Puis c'était vraiment... Merci, Red Shadow. C'était vraiment comme un peu limite bon enfant. Allô, tout le monde. Ben aujourd'hui, un peu. Ouais,
c'est l'idiot du village, là, qui parle.
Ça faisait un, ça fait, sur la forme, ça faisait un peu Samuel Grenier, là, tu sais, bon, toujours Roger, pas Roger, mais toujours happy, happy, joy, joy, allô, bon
espèce
matin.
D'image fake de bienveillance, là.
Oh, ouais, passe-montagne, wish, là, genre. Puis le fait que là, il était reçu à plein de places, puis toute l'équipe, puis on disait, fait que, disons que, tu sais, je te faire boster, faire cogner à la porte en stépine, tu sais, avec un gros Kodak de TVA, puis Yves Séguin, ou je me souviens plus, c'était Félix Séguin, pardon, ou Poirier, je me rappelle pas. Ben, tu sais, puis après ça, tu sais, essayer de faire bifurquer le débat sur, ben là, calmez-vous, c'était même pas des bobettes. Hey, dude! Tu venais de compter qu'il y a une petite fille qui est morte à cause du vaccin, puis l'équipe de vaccination était même pas là cette journée-là.
Non, mais lui.
Si, peux-tu enlever ta marde sur Internet?
Lui, il se faisait taper ses doigts pour la désinformation. Puis, comme je disais dans la promo, celui qui dit, celui qui dit, ben, eux autres aussi, ils en font de la désinformation. Ben, c'était pas des bobettes, c'était des boxeurs.
Ouais, ouais. C'était pas des bobettes, c'était mes stépines préférées, tu sais. Fait que, la bonne nouvelle, sauf que, par contre, là, on saura jamais la réponse, mais est-ce que ça aura permis à d'autres Claude Gélinotte, des wannabe journalistes, influenceurs, de proliférer? Je suis pas capable de te répondre.
Peut-être que ça a laissé quelqu'un fermer le gueule. Excusez, je t'écoute.
Sauf qu'il y a une affaire qui est sûre. Après lui, il n'y en a pas eu moins, par exemple.
Ah, c'est vrai.
Tu sais, fait que c'est la seule donnée empirique que je peux te donner. Puis là, ben, Frank, là, je prends pas le contrôle, là, mais on va faire la petite pause. Mais on va se rappeler des souvenirs, par exemple, avant ça. Donc, on vous revient tout de suite après ceci.
La Gélinotte huppée, aussi connue sous le nom de perdrix, vit dans les régions boisées de l'Amérique du Nord. Son plumage lui permet de se confondre avec le milieu ambiant. On la trouve dans plusieurs terres boisées de l'est du Canada et dans les tremblais de l'ouest. La Gélinotte huppée n'émigre pas. Pendant l'hiver, elle dort dans les arbres ou sous la neige. Elle se nourrit d'insectes, de graines, de bourgeons et de baies de toutes sortes. La Gélinotte huppée pond jusqu'à 11 œufs. Les poussins quittent le nid quelques heures seulement après l'éclosion. Dès que le plumage des petits a séché et s'il fait beau, la mère et sa nichée abandonnent le nid.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Commentaire très pertinent de Queen of the Islands. Y a-tu un oiseau plus épais qu'une gélinotte? Ça fiche pis ça pense qu'on la voit pas. C'est vrai, tu roules sur le bord du chemin. Tu roules dans un chemin de campagne. Puis y a bien des chasseurs qui font cette technique-là que moi, je me respecte mitigé pour ça. ils roulent dans le chemin de campagne, ils attendent de les voir sur le bord du chemin. Là, hop, ils voient, puis là, ils arrêtent le truck devant la perdrix, débarque, va chercher gun en arrière. Le sort de la boîte, déborde la boîte, le sort de la boîte, met une balle, met le canon droit,
ouais,
épaule l'arme, prend son temps, fume une cigarette, tire la gélinotte, parce qu'elle est épaisse, elle reste là. Elle pense que tu la vois pas parce qu'elle bouge pas. Puis là, ben après ça, ben, tu la mets dans ta gibetière, puis tu t'en vas, puis tu continues comme ça. C'est l'oiseau le plus imbécile du Québec.
Vraiment. J'ai une anecdote. Tu sais, on parle souvent de Jean-Marc Belzile, qui est journaliste à Radcan, oui, avec qui on travaillait à l'époque chez RNC, 2010, 11, 12, whatever. Mm-hmm. Tu sais, il avait tué une perdrix, lui, avec un balai, parce qu'elle était dans... Tu sais, le banc qu'il y avait à côté de la porte d'entrée chez RNC, là, ben, était dans l'espèce de buisson qu'il y avait en arrière de ça. Tu sais, tu te dis comment c'est calme, là. Tu sais, fait que non, c'est ça. La chasse à la perdrix, c'est aussi facile que débunker Claude Gélinotte.
Oui, oui, c'est ça. C'est comme cueillir des pommes dans un petit arbre. OK, le port de Montréal, on savait déjà là, qu'il y a beaucoup de véhicules volés qui transitaient par là, mais Colin, ça en fait beaucoup. On parle de... Bon, on sait que déjà à Montréal, ceux qui assurent leurs véhicules-là savent très bien qu'il y a beaucoup de véhicules qui se font voler, et c'est pour ça qu'on paye cher d'assurance. En 2021, on était à 6500 véhicules volés. OK, ça en fait beaucoup, là. Mais là, en 2022, ça a monté à 9591. On parle d'une méchante hausse, là, tu sais, puis sans compter les méfaits. D'ailleurs, il y a eu un reportage là-dessus là, dans les derniers jours des malfaiteurs qui brisent les fenêtres de véhicules. Genre, ils font une roue complète. Bon, à soir, c'est Atatakin. On passe là, côté droit, on pète les fenêtres pour essayer de trouver les affaires dans les chars. Mais là, ça, c'est à part de ça. Là. On parle de vol de véhicules. Évidemment, les véhicules les plus volés, c'est toujours des VUS puis des pick-up. Mais surtout, le Toyota RAV4, si vous avez ça à Montréal, ben, vous aimez vivre dangereusement. T'sais. Assurez-le bien comme il faut. Bien comme il faut. Parce que c'est le genre de véhicules les plus prisés. Puis on apprend qu'un bon nombre de ces véhicules-là, possiblement la majorité, transitent par le port de Montréal. Le port de Montréal, c'est un gros port. Hein? C'est le plus gros de l'Est du Canada. C'est 30 km de long. Je comprends que ça peut être difficile à vérifier, mais en même temps, ils mettent pas, ils mettent pas les chars dans des ziplocs cachés dans des bols de café. Là, c'est des conteneurs pleins de chars volés. Là. Puis bon, ben, on dit que c'est un secret de polichinelle, effectivement. Là, tout le monde est au courant de ce secret-là. Mais à quel point on laisse ça dégénérer avant d'agir d'une façon un peu plus drastique, qu'on fasse preuve d'un peu plus de zèle de la part des autorités? Parce que là, c'est devenu hors de contrôle. C'était déjà énorme, là, avec les 6000 véhicules volés à Montréal en 2019. On est rendu à 9600, là. C'est quoi? C'est-tu à 1000? 1000, c'est le chiffre magique. À 1000, on s'intéresse à ça. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'on attend du côté des autorités. Puis oui, oui, le port est très grand, mais je veux dire, les autorités ont des moyens aussi. Puis on nous dit que l'Agence des services frontaliers du Canada, ceux qui sont censés vérifier, contrôler ça, ne font pas assez de vérifications ponctuelles. Tu sais, ils arrivent pas assez, tu sais, à l'improviste pour vérifier le contenu de conteneurs, on dirait presque un pléonasme. Puis apparemment, ils font pas assez de zèle. Tu sais, des fois, on peut reprocher à aller dans un aéroport, vous êtes du zèle, vous allez en avoir là. Ils vont fouiller jusque dans vos shorts, détecteurs de métal, toute la patente, et ils fouillent les bagages. Ben imaginez que qu'ils arrêteraient de faire ça, puis c'est juste une fois de temps en temps quand on passe par là, puis tu sais, c'est l'agence a intercepté 1000 véhicules volés au port. Là. Puis des véhicules qui se ramassent loin, là, tu sais, ils s'en vont pas. ils s'en vont en Europe, ils s'en vont en Afrique. On en trouve en Italie, on en trouve dans des pays africains. Il y en a beaucoup. C'est difficile de savoir combien qu'il y en a vraiment qui transitent par le port, mais je pense que c'est assez important. Là. D'ailleurs, un agent des renseignements criminels d'Interpol, qui est la police internationale, qui s'y attarde à ça, il s'appelle Renato Schipani. C'est un policier italien, puis il dit « Nous trouvons des centaines de voitures canadiennes volées en Italie. » On s'entend-tu que l'Italie, c'est pas nécessairement le marché le plus susceptible, en tout cas, d'avoir des chars qui arrivent de... du Québec, tu sais, puis malgré ça, il en trouve des centaines. On en trouve beaucoup ailleurs dans le monde, notamment en Afrique de l'Ouest. Puis évidemment, c'est plus difficile de réclamer ton dû. Mais tu dis, oh, OK, j'ai eu des données de mon Starlink ou whatever. Mon char est en Afrique de l'Ouest.
Ben, c'est il est où? Il est à Ouagadougou.
Oui, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Évidemment, ce problème-là est latent. On n'a pas l'impression que les autorités ont décidé de s'y attaquer vraiment. Parce que ça fait juste augmenter. Puis ça fait monter les primes d'assurance, comme je le disais un peu plus tôt. C'est passé de 111 millions de dollars en 2018 à 269 millions de dollars au cours des 9 premiers mois de 2022, selon la Commission des assurances du Canada. Ça commence à coûter cher. Pas mal aux utilisateurs de véhicules qui essaient de s'assurer, et notamment ceux de Montréal. Moi, je pensais pas payer cher d'assurance, mais je me suis acheté un véhicule là, t'sais, tout petit. Là, t'sais, je peux le mettre dans mes poches. Je n'ai même pas besoin de le stationner. C'est un très, très petit véhicule, mais puis pas d'une valeur incroyable. Là, il est assez récent, tout ça, mais... Colin, les assurances coûtent cher. Ben, j'ai ma réponse pourquoi ils coûtent cher. C'est parce qu'ils se font toutes voler à Montréal. Ils sacquent ça dans des conteneurs et les bateaux vont distribuer ça à travers la planète, en Italie, en Afrique de l'Ouest et ailleurs, évidemment. Je vous dirais, soyez prudents, assurez-vous comme il faut. Puis, Colin, moi, être à Montréal, même si je tripais sur... je reviens encore à ce modèle-là, le Toyota RAV4, c'est le véhicule le plus volé au Canada, et à Montréal encore plus, parce que c'est un véhicule qui se revend bien, qui a une bonne valeur de revente là. Oui.
Ouais, spécial pareil, parce que tu sais, je suis pas un expert en véhicule, mais le RAV4, tu sais, je suis pas
c'est un SUV c'est un petit SUV qui est très, très fiable. Je veux dire, c'est un Toyota, là. Je veux dire, c'est un véhicule qui a une très bonne valeur de revente, puis qui a une très bonne réputation et qui est très en demande sur la planète Terre, qui est sensiblement le marché qui est convoité par les trafiquants de véhicules volés. Fait que soyez prudents avec ça. Surtout les propriétaires... de RAV4.
Ben là, le monde qui a des RAV4, allez pas les vendre.
Non. Mais tu sais, si vous avez un garage, mettez-le dedans, puis assurez-vous qu'il est assuré. Manquez pas. Ben ouais. Prenez pas de chance. Puis barrez-les comme il faut, puis c'est ça. Au moins...
Breaking news. Oui, vas-y.
Non, vas-y.
Ben, je voulais juste dire, breaking news, suite au crachoir, les ventes de RAV4 usagées explosent. Ça serait drôle en tabouin.
On est ouvert pour les commandites.
Hey, Frank, ça va pas bien. Joe Biden, là, ça arrête plus. Là.
Ben oui, c'est systématique.
C'est systématique. Ils sont en train de... C'est pas dur, tu sais. Joe Biden, oui. Pouvons-nous avoir la liste de vos lieux de résidence? Pourquoi? Ben, on va toutes les fouiller. Parce que là, encore une fois, là c'est le FBI... Suite à, évidemment, le fait qu'ils en aient trouvé ailleurs, tu sais, parce que c'est quand même le président des États-Unis, là, il y a une couple de places où il fait de dos, là. Et, ça continue, mais ça m'emmène à te parler d'une autre affaire qui concerne ça, justement. Que ce soit Trump, que ce soit Biden, là, il y a Mike Pence aussi chez qui ils ont trouvé des affaires, c'est que, il y a, il y a une espèce d'épidémie de nombre de personnes qui ont accès à ce que les États-Unis appellent des documents classifiés. OK? Il y a un livre qui va sortir en février d'un auteur qui s'appelle Matthew Conley, qui s'appelle The Declassification Engine, What History Reveals About America's Top Secrets. OK? En gros, lui, sa prétention, la prémisse de son livre et les explications qu'il va donner, c'est que la classification des documents aux États-Unis, c'est un fléau. Ils classifient tout.
Ah.
Ils rendent tout. Ils donnent une connotation de « il y a juste certaines personnes qui peuvent regarder ceci, cela, à peu près à tout. »
Puis les politiciens s'échangent ça comme des... collectionnent ça puis s'échangent ça comme des cartes d'hockey, apparemment. Peut-être que ça augmente la valeur.
c'est pas nécessairement comme ça que je... Combien tu penses aux États-Unis qu'il y a de personnes qui sont habilitées à regarder des documents qui portent la mention « top secret »?
Ah, ça doit être l'élite du top FBI, secret, là, CIA, j'imagine.
« Top secret », là, ça ne peut pas aller plus haut que ça. Okay? « Top secret », tu ne peux pas regarder ça chez vous. Il faut que tu sois sur les lieux d'un édifice gouvernemental puis pas dans n'importe quelle pièce. Là. Mm-hmm. Okay? Combien il y en a? Dis-moi un chiffre. Garoche un chiffre, n'importe quoi.
Bon, moi, je dis qu'il doit en avoir 1000.
1,3 million.
Hey, c'est secret rare.
Ouais.
Il y a quoi là-dedans? Autre des recettes de sucre à crème au micro-ondes?
Autre donnée stupéfiante, 1,3 million de personnes ont actuellement une habilitation de sécurité leur donnant accès à des documents classifiés portant la mention « Top Secret ». Ce nombre ne comprend pas les millions d'autres personnes qui ont accès à des documents classés « secrets » ou « confidentiels » parce qu'il y a des grades, là. Il y a une codification, là. Fait qu'il y en a des. Fait qu'en gros, là, dans le fond, là, tu sais, que ce soit Trump ou Biden ou Pence, là, tu sais, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est bien que ce ne soit pas permis, bien que ce soit réglementé, tu sais, probablement, là, que les affaires qu'ils ont trouvées chez Biden ou chez Trump, il y a quelques millions de personnes qui peuvent regarder ça, là.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est.
Ça
n'a pas de l'air si secret ni prestigieux que ça. C'est comme, bon, OK, les codes nucléaires, le pâté chinois du président, le vrai nom de... le baptistère africain de Barack Obama.
Oh, ouais, c'est ça, parce que la notion importante, c'est que... c'est toute cette classification-là des... Parce que quand on dit « classified », ça veut pas dire, ça peut porter une des trois, quatre mentions. Classified, ça veut juste dire c'est classifié. Ça dit pas si c'est top secret, confidentiel, secret, ou il y en a un autre qui s'appelle SCI. Je sais pas qu'est-ce que l'acronyme veut dire, mais écoute ça. Dans le cas des documents saisis par le FBI à Mar-a-Lago, 11 portaient la mention SCI, ce qui signifie qu'ils ne devaient être consultés que dans des installations gouvernementales sécurisées. Le club privé à Palm Beach n'entrait évidemment pas dans cette catégorie d'installation. Et là, ben, lui, selon Matthew Conley, ça va être intéressant, ça, je pense bien que je vais l'acheter. Selon Matthew Conley, tout ça, là, la classification, ça cache autre chose. Ça cache, en fait, parce que ce qui arrive, là, c'est que quand ils sont déclassifiés, ces documents-là, tu sais, souvenez-vous l'affaire de JFK, là, puis c'est 50 ans plus tard, puis blablabla. Lui, sa prétention, c'est de dire qu'il s'agit, en fait, un peu de priver les Américains parce que c'est leur patrimoine. Tous ces documents-là appartiennent aux États-Unis. Ils appartiennent à personne puis ils appartiennent à tout le monde. Fait que lui, sa prétention, c'est de dire que c'est peut-être dans le but de que ne soient pas révélées certaines choses, soit du vivant du président, ouais. Soit, tu sais, tu comprends? Fait que lui, il parle de ça comme d'une exagération absolument totale. C'est-à-dire que, tu sais, je sais pas, moi, là, tu sais, un président, il pourrait, ou quelqu'un qui est à la sécurité nationale, tu sais, il pourrait avoir le pouvoir de dire, ah, ben là, la femme à Joe Biden, elle nous a envoyé un email pour organiser son party, whatever, parce qu'on va tous se retrouver à telle place. Fait que là, classifie-moi ça confidentiel. Tu sais, tu comprends, là, j'exagère, puis c'est cave, là,
l'exemple. À côté de, comme Ratounek disait, là, à côté de toute la vérité sur le Bigfoot.
Ouais, ben, c'est peut-être, le Sasquatch whereabouts, top secret. T'sais, peut-être, mais en tout cas, fait que ça risque d'être intéressant parce que, dans le fond, le constat qu'il y a peut-être à faire de tout ça, c'est que il y a une game qui se joue avec ces. Puis là, s'il vous plaît, je partais pas d'inconspiration, mais tu sais, il y a la classification, c'est comme, regarde, m'a donné l'exemple que j'ai donné plein de fois. Je travaillais en informatique, on avait des calls de service à faire. Il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée de dire, hey, on va mettre des codes dessus pour savoir quand est-ce aller plus vite, moins vite chez quelqu'un. Ben, ça a pris 4 jours, puis les codes, c'était tout rouge. Ça pressait tout.
Bah, ouais.
Fait que c'est la même affaire. Tout devient potentiellement non divulgable, tu sais. Fait que là, ben, on met tout, puis on way. Puis en plus, parallèlement à ça, ben, ce qui semble dire, Conley, c'est puis en plus, il y a des millions de personnes qui peuvent le regarder. Tu sais, fait que c'est-tu, est-ce que c'est si top secret que ça? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et ben, garde, ça risque d'être intéressant. Je vous redonne le titre du livre, là. C'est quand même assez long. C'est Matthew Conley avec 2 T et un W. Donc, M-O-T-T-H-E-W Conley 2 N. The Declassification Engine, What History Reveals About America's Top Secrets. Ça risque d'être... je pense pas que vous allez avoir... je pense pas qu'en lisant ça, vous allez savoir où c'est qui est Jimmy Hoffa puis c'est qui a tué Kennedy. Là.
Moi, ce que je trouve cocasse, c'est la couverture des Républicains puis des Tucker Carlson puis Sean Hannity de ce monde. Là, t'sais, que quand c'était Donald Trump, c'était pas grave, puis il est président, puis il a bien le doué. Mais là, tout d'un coup, c'est Biden. Ah! Ça, c'est grave! Puis là, ils sont sur son dos. Puis là, Mike Pence sort, Ouais, ben, il était de bonne volonté, puis c'est pas de sa faute, puis tu sais, c'est une erreur de bonne
foi. On dirait que Mike Pence, ça dérange moins au monde parce que. Il a l'air niaiseux.
Ouais, il a l'air pas dangereux au sens insignifiant, là. Tu sais, c'est comme quand tu joues au ballon chasseur, t'essaies d'éliminer ceux qui lancent fort. Le petit avec des lunettes, là, qui est pas capable d'attraper le ballon, tu dis, bah, lui, on fera en dernier, c'est pas une menace, tu sais.
Ah ouais, non,
c'est Mike Pence, il impressionne pas grand monde, puis je pense pas qu'il y en a qui le voient se présenter à la présidence, là, mais j'ai des gros doutes. Je pense pas qu'il se ramasse à remporter l'investiture.
Oh, le cousin que ça te tente pas d'inviter au party, mais que t'es obligé.
Ouais, c'est ça. Celui que t'as bizarre.
Allez, Mike, là.
c'est ça. Celui que tu veux pas dans ton équipe de ballon chasseur, justement.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, fait que ça risque d'être pas mal intéressant. Ouais, c'est ça. C'est toujours le dernier pic. Mais là, Frank, faut que je te parle de quelque chose.
Vas-y.
Ah, tu vas faire le saut.
OK, je suis prêt.
Priscilla Presley, la veuve, évidemment, du King. Tu vas capoter, là. Imagine-toi donc qu'elle conteste le testament de sa fille décédée.
Eh bien.
Écoute, puis tu vas triper sa raison. Écoute, only in Hollywood, là. Mm-hmm. La raison pour laquelle elle. OK. Là, on tombe pas dans le légal. Je suis pas juriste, je suis pas avocat. OK? Fait que Lisa Murray a fait un testament. Et bon, là, il faut comprendre que l'espèce de catalogue, tout ce qui concerne pas mal la succession d'Elvis Presley, là, ça a été vendu. Comme il y a plein d'artistes qui le font, là. Fait qu'il y a plein, tu sais, même Justin Bieber, il a vendu son catalogue musical, genre, il a vendu ça pour 200 millions, quelque chose de même.
Les Beatles, que,
c'était Michael Jackson qui avait ça, ça va. Mais là, il est question du temple, n'est-ce pas? Il est question de Graceland et, évidemment, de les pèlerinages qui ont lieu là à chaque année puis tout ça. Fait que tu sais, c'est un beau pactole, tu sais, c'est quelque chose que tu veux pas nécessairement perdre. Puis là, ben, dans son testament original, ouais. Ben c'était à sa maman que ça allait, c'était à Priscilla Presley que tout ça s'en allait. Et là, comme je te disais, Elvis Presley Enterprises, ça a été vendu à une compagnie de capital investissement en 2005. Mais Lisa Murray avait conservé le contrôle de Graceland, la propriété que possédait son père, suite à son décès, évidemment, en 77. Fait que j'imagine que c'était le genre de deal quand elle va avoir 18 ans. Ou peu importe. Oh, oui. Ce qui est arrivé, c'est que Priscilla, ben elle réclame l'invalidation du Nouveau Testament, Frank. Parce que sa fille, elle lui a pas dit qu'elle l'avait changé, bon.
Ben là.
Fait qu'elle ne lui a jamais été présentée du vivant de sa fille. Son avocat souligne notamment que la signature de Lisa Murray semble incohérente par rapport à sa signature habituelle. Oh.
Ça sent la chicane de testament traditionnel. On essaie de.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le pire, là, c'est que. L'affaire qui arrive, c'est que Lisa Murray, elle, évidemment, elle a une famille, elle aussi, là, elle a des enfants. Elle a deux jumelles, Harper et Finley. Ce sont elles qui doivent hériter de Graceland, conjointement avec Riley, qui est son fils, qui a 33 ans. Riley, c'est sa fille. Elle avait un fils aussi qui s'appelait Benjamin, mais malheureusement, il s'est enlevé la vie en 2020. La chaîne NBC News a cité un email anonyme émanant de l'entourage de Lisa Murray qui dénonce le recours judiciaire de sa mère. Selon le courriel, la veuve d'Elvis n'entretenait aucune relation avec sa fille dans la période précédant son décès. Ah, okay. Évidemment, les représentants de Priscilla Presley n'ont pas immédiatement répondu suite à des demandes de l'agence France Presse et d'NBC News. Fait que, évidemment, disons, je me sens un peu comme dans Dallas, là. JR, il a fait une le tweet, genre, là.
Ou à notre échelle, dans l'héritage.
Ah ouais, c'est plate. C'est plate parce que, écoute, là, tout le monde qui me suit un peu, puis merci à tout le monde, je vais vous remercier dans deux secondes, mais
Tout le monde qui me suit un peu sait que je suis un giga fan d'Elvis Presley. Ça fait partie de mon enfance, des souvenirs de mon père, tu sais, tout le kit. Mais, tu sais, c'est tellement plate comment ça a fini, tu sais, tout ça. Puis là, regarde encore aujourd'hui, tu sais, les histoires de Lisa Marie avec Michael Jackson. Puis les histoires, tu sais, c'est à boire. Tu sais, comment scraper un legacy pour un si grand musicien, si, c'était pas un grand musicien, mais si, une icône de musicale, de pop culture, de qui a fait traverser l'ère musicale dans une nouvelle époque, coïncidant avec l'arrivée de la TV. Tu sais, c'est immense, ce qu'Elvis ou l'œuvre d'Elvis et ce qu'il nous lègue. Même, ces films plates, c'est le fun pareil, t'as entendu.
C'est de la culture, tu sais, puis c'est, ben ouais, c'est. Moi, j'aime mieux son héritage artistique auquel on a tous accès, puis qui nous permet vraiment de se remémorer de cet individu-là qui a marqué la culture de la planète Terre, là, de l'humanité, là. Je veux dire, il est assez big pour ça. Apparemment, quand il y a de l'argent ou des valeurs en jeu, ouais. Ben ça fait tout le temps des chicanes. Ça fait souvent ça. Là. On assiste souvent à ça, des héritiers qui s'entre-déchirent comme ça pour
un patrimoine. Ouais, ben c'est dommage. T'sais, en plus, ben là, ouais. Tu sais, je veux dire...
C'est une tâche.
Après que Priscilla Presley sera plus de ce monde, ben tu sais, il va rester évidemment les petits-enfants d'Elvis, tu sais.
Il rencontre du monde pour se battre.
Ben, c'est ça. Tu sais, j'espère qu'ils vont, eux autres vont bien s'entendre. Tu sais, puis que, écoute, c'est sûr que Graceland, n'importe qui est allé là, va vous le dire. Là, c'est un peu comme la ronde d'Elvis. Là, tu sais, ça n'a plus de caractère. C'est du marchandisage, c'est de la commercialisation pure et dure. Et je dirais même crasse. Là. Mais bon, regarde, il nous reste les souvenirs, il nous reste la musique. Et c'est ce sur quoi je préfère me concentrer. Hey, j'ai une bonne nouvelle, pareil, Frank, je niaisais tout à l'heure quand je disais que les conspires vont être contents.
Oh.
Parce qu'ils vont pouvoir continuer de dire que, dans le fond, tu sais, il n'y en a pas de réchauffement climatique, puis ça n'a pas rapport, puis le monde capote, puis il fait pas si fret que ça. Ben là, en fait, moins 40, il est où votre réchauffement climatique? Non, mais écoute,
il est au bord de la Terre plate, il va revenir.
Je t'annonce que il n'y a jamais moins eu de décès causés par des températures extrêmes. Puis par température, là, je veux dire par une météo extrême, ouragan, tu sais, des affaires de même, là, il n'y en a jamais eu moins. Il n'y a jamais eu ben, regarde, c'est expliqué par plusieurs phénomènes, là. Un, il y a des pays où est-ce que c'était difficile, que les conditions de vie se sont améliorées, donc il y a plus de monde. Je te donne des exemples de pourquoi, là. Il y a plus de monde qui ont accès à de l'air climatisé, mettons.
Ouais, ou des maisons pas faites en bouette et en papier mâché aussi, là.
Voilà, exactement. Fait que ce soit pour les effondrements, la grosse bruine ou les grosses brumes, des lacs glaciaux qui explosent, des feux, des incendies de forêt, des ouragans, des tempêtes, la neige, le vent, les tremblements de terre, la chaleur extrême, les inondations, des volcans... il y a 0,16 décès par 100 000 habitants causés par ce que je viens de t'expliquer là. C'est sans précédent.
Oui, mais c'est pas parce que la science s'améliore, les matériaux de construction ou les outils de prévision de ces événements-là ou l'efficacité des évacuations. Non, c'est rien de tout ça. C'est parce que c'est pas vrai, le changement climatique.
Ouais, c'est ça. Puis je te donne une autre bonne nouvelle relativement à ça qui s'adresse aux gens qui ont peur de l'avion. Ben ça aussi, ça s'est amélioré. En gros, là, c'est il y a un accident. En fait, le pourcentage d'accidents qui sont fatals en avion, OK, c'est 1 sur 4 240 000. Ça, c'est une donnée mondiale.
Moi, j'ai pas peur des avions. Je comprends ça, les avions. Ça n'existe pas, les avions.
Ouais, c'est ça. C'est comme l'autoroute. L'autoroute. Ça s'écrit E-T-E-R-E-T-E.
Une autoroute.
Ouais.
On dit une évion, hein? Une évion.
Oui, une évion, une autoroute.
Ouais. Une autobus.
Une aéroport. Une aréoport.
Aréoport, oui.
À
Hey là, Frank, tu vas me permettre, s'il te plaît, de profiter de cette tribune pour remercier vraiment. Il y a beaucoup de gens qui m'ont souhaité bonne fête.
Hey, vas-y, on va finir là-dessus.
Ouais, je veux juste prendre deux secondes pour vous dire un énorme merci. J'ai reçu plein de messages, j'ai reçu plein de écoute, il y a du monde m'a envoyé des vidéos. Vraiment, c'est super gentil, c'est super apprécié. Je vais vous dire un peu la même affaire que j'ai dit parce que ça s'est passé. En fait, moi, le minuit entre le 30 et le 31, j'étais sur Touski TV en train de faire un show avec notre amie commune, Sika. Bourbon est venu me chanter bonne fête. Vous allez voir ça, là, j'en ai fait un petit montage. Mais, tu sais, bon, oui, OK, j'ai 50 ans. Pis c'est, bon,
mais t'as même reçu des liens vers la FADOC puis des petits liens utiles comme ça.
Il y a du monde qui m'a envoyé des cartes de membres de la FADOC. Mais je veux juste dire merci à tout le monde. Je veux dire merci aussi à mon amie Lady Marianne qui est venue m'amener un beau gâteau, de la bouffe, vraiment, c'est je me trouve vraiment choyé. Puis moi, ben, c'est pas dur. Là, je dis en vieillissant, je me trouve pas vieux, là. On reste calme, là. Je le sais que c'est juste un chiffre, il n'y a rien là. Puis... Oui, vas-y.
Mais moi, je te trouve vieux, là.
Tu trouves ça vieux. Bon, c'est correct. Toi, c'est pas grave. De toute façon, mais. Puis je veux citer ma mère aussi qui m'a envoyé un message absolument magique. Hier, elle a fait un post sur mon wall. Elle a dit « Pour toi, Martin, on s'en fout de vieillir, on fait autant de conneries, mais plus lentement, c'est tout. Bonne fête, je t'aime. » Alors moi aussi, je t'aime, maman. Merci infiniment, merci beaucoup. Puis merci vraiment à tout le monde. Comme je le disais, moi, la seule crainte que j'ai de vieillir, c'est, vous allez trouver ça weird, c'est super quétaine, c'est la solitude, sans joke, là. Okay. Puis moi, à toutes les fois qu'on fait l'Express, à toutes les fois qu'on fait des trucs sur Touski TV, à toutes les fois qu'on fait des likes, qu'on crée du contenu, qu'on interagit avec le monde, moi, ça m'aide à contrer ce sentiment-là. Puis je dis pas ça parce que je suis tout seul. Je suis pas tout seul, là. Fait que je remercie tout le monde de faire en sorte que je me sente pas de même. Mais puis quand je dis solitude, là, je parle pas de relation, de couple, là. C'est pas de ça, pantoute. Pantoute. C'est plus de continuer d'être aussi bien entouré. Ouais. Fait que je veux juste en profiter pour dire un très, très grand merci à tout le monde. Ça m'a touché beaucoup. Puis là, ben, je suis pas un tripeux. T'es comme moi, on est pareil, moi, pis toi. Moi, je suis pas un tripeux de c'est ma fête. Je suis pas vraiment pas. Mais là, regarde, 50.
Moi, d'habitude, je réussis à passer la mienne assez inaperçue.
Ouais, toi, tu fais exprès, mais c'est pas pareil, là. Mais chacun ses raisons, mais de toute façon, merci. Merci infiniment. Ça m'a beaucoup touché. J'apprécie beaucoup. Puis là, ben, c'est plus ma fête.
On continue.
Voilà. Et voilà.
Le petit train continue, puis le wagon, il roule encore pas mal. On n'est pas encore rendu au stade où Yvon Deschamps décrivait. Avant, tu faisais il y a des affaires que tu faisais 2-3 fois par jour, puis maintenant, tu penses 2-3 jours avant de les faire. Évidemment, il parlait de sa vie sexuelle. Je pense pas il te reste encore une couple d'années en shape pas mal. Là, t'es pas pire en santé. Moi, je trouve que tu vieillis bien, mon Martin. Tu vieillis très bien.
Je vais citer un de mes bons amis que j'ai perdu, malheureusement, dans la dernière année. Qui a dit souvent cette phrase-là, puis j'ai souvent fait des blagues. Puis c'est en blague que je le dis, mais c'est un peu pour y envoyer une petite pensée. J'ai pas d'avenir, mais Christ que j'ai un beau passé.
Sur ces belles paroles, on va se quitter puis on se donne rendez-vous demain à midi. Salut.
Membre de la famille H2O Web Media.